بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلنبدأ بحديث الأول من الأربعين النووية عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. Donc le prince des croyants, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, rapporte: j'ai entendu le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les actes ne valent que par leurs intentions, et à chacun sera récompensé selon son intention. Celui qui émigre pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son prophète, son émigration sera comptée pour Allah et pour son prophète. Et celui qui émigre pour acquérir un but de ce bas monde ou pour se marier avec une femme, son émigration sera comptée comme telle. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim, rahimahumullah. فلنبدأ أول ما نبدأ بترجمة راوي الحديث، وراوي الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. Donc on va commencer d'abord sur une brève biographie de celui qui a porté le hadith. Et celui qui a porté le hadith, c'est Abu Hafs أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه هو أول من لقب بأمير المؤمنين على العموم، وكنيته أبو حفص، والحفص لغة هو الأسد أو ولد الأسد، والذي كناه بأبي حفص هو النبي صلى الله عليه وسلم لشدة عمر في دين الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي على أمر الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Donc عمر بن الخطاب c'est أمير المؤمنين. Et عمر a été le premier à avoir été appelé par le titre de أمير المؤمنين. À la mort du prophète صلى الله عليه وسلم, celui qui est devenu خليفة المسلمين fut أبو بكر رضي الله عنه. Et le successeur de Abu Bakr, pour éviter de l'appeler Khalifatu, Khalifati Rasulillah, et le troisième successeur, Khalifatu, Khalifati, Khalifati Rasulillah, et ainsi de suite, les musulmans ont désigné le titre de Amir al-Mu'minin pour celui qui serait le responsable des musulmans. Et le premier à avoir reçu ce titre, c'est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et sa kunya, c'est Abu Hafs. Et Al-Hafs, en langue arabe, veut dire le lion ou le fils du lion. Et celui qui lui a donné cette kunya, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la rigueur que Omar radiyallahu anhu avait dans la religion d'Allah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith authentique: celui qui a le plus de rigueur dans les ordres d'Allah et dans la religion d'Allah, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wa luqiba radiyallahu anhu bil Faruq li'annahu adhhara al-islam bi Makkah. ففرق الله به بين الكفر والإيمان وهو عمر بن الخطاب أول من جهر بالإسلام في مكة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أول من جهر الإسلام بمكة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Et il est aussi, Omar ibn Khattab est aussi surnommé Al-Farouq, celui qui sépare. Parce qu'il a manifesté son islam à la Mecque. À un moment où manifester son islam était très difficile, était très dangereux pour sa vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de Omar, à cette époque, à ce moment-là, a distingué entre Al-Kufr, la mécréance, et entre Al-Iman, la foi. C'est pour ça que Omar ibn Khattab fut le premier des musulmans à manifester publiquement son islam. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a dit, le premier à avoir manifesté publiquement son islam fut Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Wa islamuhu radiallahu anhu kana izzatan lil islam wa lil muslimin. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. Et la conversion de Omar à l'islam a été une force à la fois pour les musulmans, mais a été aussi une force à la fois pour l'islam, pour la religion d'Allah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des invocations et il disait « Oh Allah, renforce ta religion par la conversion de Omar ibn al-Khattab » radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait « Depuis la conversion de Omar à l'islam, depuis que Omar est devenu musulman, nous sommes toujours restés forts, nous sommes toujours restés puissants » radiyallahu anhu. « Wa Omar aslama sanata sit wa huwa min al-mubashsharin bil jannah » النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة عمر في الجنة إلى آخر الحديث. Et عمر رضي الله عنه est rentré en islam la sixième année après la révélation du prophète صلى الله عليه وسلم. Et il fait partie de ceux dont le prophète صلى الله عليه وسلم a annoncé l'entrée au paradis. Une fois le prophète est assis avec les compagnons et il a dit Abu Bakr est au paradis. عمر est au paradis. Et il a cité d'autres compagnons رضي الله عنه. واتفق أهل السنة والجماعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم على عقيدتهم وعلى منهاجهم وعلى مذهبهم. اتفق أهل السنة والجماعة خلفا وسلفا على أن أفضل البشر بعد الأنبياء وبعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولو كره الروافض ولو كرهه الشيعة. Et aussi, ce qui montre la valeur de Omar ibn al-Khattab, c'est que les gens de la Sunna et de la Jama'a, comme ceci a été rapporté par l'imam al-Nawawi, par l'imam Cheikh Islam ibn Taymiyyah, et parmi tous les savants, ils disent que le meilleur des hommes, après les prophètes, et après Abu Bakr radiallahu anhu, vient Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et dans cela, il y a une réfutation et une réplique aux chiites qui eux détestent Abu Bakr et qui eux détestent Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. وكان عمر رضي الله عنه إذا لقيه الشيطان في الطريق يفر منه الشيطان وعمر هو الذي وافق ربه سبحانه وتعالى في مواقع متعددة من كتاب الله عز وجل أو وافق يعني القرآن الكريم في آية مقام إبراهيم وفي آية الحجاب وفي آية أسار بدر رضي الله عنه. Et Omar radiallahu anhu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'apporte dans les hadiths authentiques, lorsque Shaitan rencontrait Omar sur son chemin, Shaitan fuyait et changeait de chemin. Et Omar radiallahu anhu, dans plusieurs circonstances, dans plusieurs situations, son avis coïncidait avec le sens de la révélation. Comme ça a été le cas pour le verset du hijab, comme ça a été le cas pour le cas des prisonniers de Badr, et comme ça a été le cas pour Maqam Ibrahim. Le Coran est venu appuyer la vie de Omar radiyallahu anhu. واستمرت خلافته 10 سنين و6 اشهر و5 ليالي وعاش 63 سنه ومات رضي الله عنه شهيدا مقتولا. Et le califat de Omar ibn al-Khattab est resté 10 ans, 6 mois et 5 nuits. Et son califat a été une période de bien pour les musulmans et pour l'islam. Et il est mort, radiyallahu anhu, à l'âge de 63 ans, comme l'âge du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et comme l'âge de Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et Omar, radiyallahu anhu, a été tué par un Perse, et il est mort martyr, radiyallahu anhu. C'est pour ça qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la montagne de Uhud et il a dit Uskut ya Uhud, fa inna alayk nabiyan wa siddiqan wa shahidain. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la montagne de Uhud et il a dit Uhudun jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. La montagne de Uhud est une montagne que nous aimons et elle nous aime. Et la montagne a bougé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit calme-toi ô Uhud parce qu'il y a sur toi un prophète. Il y a sur toi un siddiq en parlant de Abu Bakr radiallahu anhu et il y a sur toi deux martyrs en parlant de Abu Umar ibn al-Khattab et de Uthman radiallahu anhuma wa hasharana Allah subhanahu wa ta'ala ma'ahum. Wa rawa an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam 539 haditha radiallahu anhu. Et Umar radiallahu anhu nous apporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam 539 hadiths. رضي الله عنه هذا فيما يتعلق براوي الحديث يتعلق بعمر ابن الخطاب فاروق هذه الأمة أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه. Ceci concerne une brève biographie et quelques points de la vie de Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه. والآن نتحدث عن منزلة الحديث. لماذا هذا الحديث مهم؟ ولماذا بدأ به الإمام النووي الأربعين حديثا بهذا الحديث. Maintenant nous allons parler de l'importance de ce hadith. Pourquoi l'imam Nawawi rahimahullah a-t-il introduit, a-t-il commencé son livre الأربعين النووية par ce hadith, le hadith de Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فهو قاعدة من قواعد هذا الدين، حتى قال الإمام أحمد والشافعي إنه ثلث العلم. هذا الحديث ثلث العلم، وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه وبلسانه وبجوارحه، والنية أحد الأقسام هذه الثلاثة. Ce hadith est important car ce hadith est l'un des plus importants des hadiths qui constitue le pivot de notre religion. Car il est un édifice, il est un des fondements de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plupart des règles juridiques tournent autour de ce hadith, au point que l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i, rahimahumullah, ont dit la science, le tiers de la science se résume dans ce hadith. Ce qui montre que ce hadith est important. Et pourquoi? Parce que les biens, les actes que l'homme fait, que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises actions, elles se font au moyen de son cœur, ou au moyen de ses paroles, ou au moyen de ses membres. Et l'intention, an-niyya, c'est l'un de ces trois moyens. Donc on voit bien l'importance de l'intention, et l'importance donc de ce hadith dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة اسمعوا هذا القول. يقول أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. يقول الإمام أحمد وإن الدين كله يرجع إلى إما فعل المأمورات أو ترك المحظورات أو توقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الإمام أحمد رحمه الله دي les fondements de l'islam tournent autour de trois hadiths. Le hadith de Omar, celui qu'on est en train de citer, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، les actes ne valent que par leurs intentions. Le deuxième hadith, le hadith de Aïcha, où le prophète sallam dit celui qui fait, qui innove dans notre religion, son innovation sera rejetée. Et le troisième hadith, le hadith de Nu'man ibn Bashir, où le prophète sallam dit le licite est clair et l'interdit est clair, et entre eux, entre le licite, entre le halal et le haram, il y a les ambiguïtés. Regardez ce que dit l'imam Ahmed. Il dit pourquoi l'islam tourne autour de ces trois hadiths? Parce que toute la religion se résume soit à accomplir des ordres, soit à éviter ou à délaisser des interdits ou à s'abstenir face à des ambiguïtés. Et ces trois points-là se retrouvent dans le hadith de Nu'man ibn Bashir où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le halal est clair, le haram est clair et entre les deux, il y a des ambiguïtés. » وإنما يقول الإمام أحمد وإنما يتم ذلك يتم يعني فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات إنما يتم بأمرين أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة وهذا الذي تضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى وهذا ما تضمنه حديث عمر إنما الأعمال بالنيات Accomplir les ordres d'Allah, délaisser les interdits et s'abstenir des ambiguïtés ne peut être possible qu'avec deux choses. La première, c'est de faire l'acte en apparence doit être fait conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est contenu dans le hadith de Aïcha, où elle dit « Celui qui fait un acte qui n'est pas selon nos enseignements, son acte sera rejeté. » Mais aussi, il faut une deuxième chose, c'est que l'acte doit être intérieurement, il doit être fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le sens du hadith de Omar radiallahu anhu, « Innama al-a'malu bin-niyat » Les actes ne valent que par leurs intentions. لهذا استحب العلماء رحمهم الله وحفظهم الله أن يفتحوا كتبهم ومصنفاتهم بهذا الحديث أي حديث عمر ومنهم الإمام البخاري في صحيحه ومنهم عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام ومنهم الحافظ البغوي في كتابيه مصابح السنة وشرح السنة ومنهم الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الجامع الصغير ومنهم الإمام النووي في كتبه رياض الصالحين والأذكار والأربعين النووية Et c'est pourquoi les savants, vu l'importance de ce hadith, ils ont trouvé bon de commencer leur livre et leur recueil par ce hadith, le hadith de Abdullah, le hadith de Omar ibn al-Khattab. Et c'est ainsi que l'imam Bukhari, rahimahullah, l'a mis en tête de son authentique. Le premier hadith de Sahih al-Bukhari, c'est le hadith « Innama al-a'malu bin-niyat ». Et c'est ainsi que l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi, dans son livre « Umdatul Ahkam », il a commencé et introduit son livre par ce hadith. Et c'est ainsi que l'imam al-Suyuti a introduit son livre « Al-Jami'u al-Saghir » avec ce hadith. Et c'est ainsi que l'imam al-Baghawi a commencé ses deux livres, Masabih al-Sunnah wa Sharh al-Sunnah, par ce livre. Ce qui montre l'importance de ce hadith pour les musulmans. وفي هذا إشارة إلى تصحيح النية في طلب العلم وما يبنى عليه من العمل. وهذا مهم جدا. Et l'intérêt de ces savants, de ces hommes de science, de ces muhaddithin, d'avoir mis en tête de leurs livres, de leurs ouvrages, ce hadith, le hadith de Omar radiallahu anhum, c'est d'attirer l'intention du talib ilm, de celui qui recherche la science, afin qu'il purifie son intention, yusaffi niyatahu, qu'il purifie son intention dans sa recherche de la science, et qu'il purifie son intention dans l'accomplissement de ses œuvres. Dans toutes les œuvres, toutes les paroles, tous les actes que l'on dit et que l'on fait, on doit rechercher la sincérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا فيما يتعلق بمنزلة الحديث وبهذا يتبين أن هذا الحديث عظيم ومهم وذو شأن. Et ceci concerne l'importance du hadith. Et avec les paroles qu'on vient de citer, on voit que ce hadith il est extrêmement important. Et il renferme beaucoup d'enseignements, beaucoup de fondements de notre religion. والآن نتحدث عما يستفاد من هذا الحديث ماذا يستفيد المسلم من هذا الحديث العظيم من فوائد ومن عبر ومن آداب ومن حكم Le troisième point qu'on va voir, c'est quelles sont les leçons à retenir concernant ce hadith? Quels sont les enseignements à retenir concernant ce hadith? Que le musulman doit comprendre correctement pour pouvoir appliquer correctement sa religion. وَنَذْكُرُوا إِثْنَتَا عَشَرَةَ فَائِدَةً. Et Inch'Allah, par la grâce d'Allah, nous allons citer 12 leçons à retenir concernant ce hadith.
الْفَائِدَةُ الْأُولَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَهَمِّيَّةُ النِّيَّةِ فِي الدِّينِ وَذَلِكَ أَنَّ صَلَاحَ الْعَمَلِ وَفَسَادَهُ بِحَسْبِ النِّيَّةِ وذلك أن ثواب أو عقاب العامل على عمله بحسب نيته الصحيحة أو الصالحة أو نيته الفاسدة وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما صلاح الأعمال وفساد الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ من ثواب ومن عقاب ما نوى.
La première leçon très importante à retenir concernant ce hadith, c'est l'importance de l'intention, de la niya dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que tout acte, toute parole sera valable ou non en fonction de la bonne ou de la mauvaise intention. Et celui qui commet l'acte, al-amil, sera récompensé ou sera privé de la récompense en fonction de l'intention. En fonction de sa bonne intention ou de sa mauvaise intention. Et ceci est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Innama al-a'mal bin niyat » Les actes ne valent que par leurs intentions. Et lorsqu'il dit « Et chacun sera récompensé selon son intention ». Par exemple, prenons le cas d'une personne qui en apparence accomplit la prière conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À tout égard, il prie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie. Mais intérieurement, sa prière n'est pas sincère pour Allah. Alors ce hadith, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne que son acte sera pas accepté et que son acte sera rejeté à cause de l'intention. Donc on voit la gravité, l'importance de l'intention dans notre religion.
الفائدة الثانية أن النية عند العلماء قسمان يعني تقع النية على معنيين.
La deuxième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que l'intention chez les hommes de science peut avoir deux sens. Lorsque tu entends le mot intention, niya, chez les hommes de science, il aura forcément un des deux sens qu'on va citer maintenant.
أولا النية بمعنى تمييز العبادات من العادات أو تمييز العبادات بعضها عن بعض وهذه هي التي يتكلم عنها الفقهاء في كتب الفقه وهي متعلقة بالعبادة
النية premier sens du mot niya intention chez les hommes de science c'est celle qui vient distinguer l'adoration de l'habitude ou bien celle qui vient distinguer une adoration par rapport à une autre adoration. Ce mot niya, il sera utilisé chez les hommes de science dans les livres de fiqh. Et cette niya-là, dans ce sens-là, elle est en relation avec l'ibada, avec l'adoration. Par exemple, de l'intention qui vient distinguer l'habitude de l'adoration. Une personne fait sa douche pour se rafraîchir ou pour se nettoyer. C'est quoi qui fait la différence entre cette personne et la personne qui le jour du vendredi fait le rousl pour aller au masjid? Ou bien la personne qui fait le lavage parce qu'il est en état de janaba? C'est quoi qui fait la différence entre ça et ça? C'est l'intention, an-niyya. L'exemple de l'intention qui vient distinguer, séparer une adoration d'une autre. On prend une personne qui jeûne le lundi. La première personne, elle jeûne le lundi parce qu'elle doit rattraper des jours du mois du ramadan. Donc ce jeûne, c'est un jeûne obligatoire. Et on prend une autre personne qui va jeûner lundi, parce que c'est sunnah de jeûner le lundi. Qui est-ce qui fait? C'est quoi qui sépare le premier jeûne du deuxième jeûne?
Al-niyya, c'est l'intention. Al-ma'na thani lil-niyya 'inda al-'ulama tamyiz al-maqsoud bil-'amal. Madha taqsud bi hadha al-'amal? Hal hadha al-'amal lillah am lillah wa li ghayrillah? Wa hadhihi an-niyya يتحدث عنها علماء التوحيد وعلماء تزكية النفوس يعني باسم الإخلاص وهي متعلقة بالمعبود برب العالمين سبحانه وتعالى.
Le deuxième sens que peut comporter le mot niya chez les hommes de science, c'est l'intention dans le sens quel est l'objectif de l'acte que tu es en train de faire. Que recherches-tu à travers cet acte?
recherches-tu Allah uniquement ou est-ce que tu recherches Allah et aussi autre que Allah subhanahu wa ta'ala? Et le sens du mot niya ici, le mot niya ici aura le sens de ikhlas, de la sincérité. Et là, le mot niya sera en relation avec al-ma'bud, avec Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, dans ton adoration, tu dois être sincère avec le ma'bud, avec Allah tabaraka wa ta'ala. الفائدة الثالثة من هذا الحديث فيه إشارة إلى فضل العلم ومن أين نأخذ هذه الفائدة من هذا الحديث. La troisième leçon à retenir concernant le hadith de Omar ibn al-Khattab, c'est qu'il y a une indication dans ce hadith au mérite de la science. On pourra dire, quel est le rapport entre ce hadith qui parle de l'intention et l'ilm et la science?
قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني أن النية سابقة للعمل أي يجب على المسلم قبل القدوم على العمل أن يعرف حكمه هل هو مشروع أم لا هل هو واجب أو مستحب وهذا لا يتحقق إلا عن طريق العلم لهذا قال بعض السلف رحمهم الله تعلموا النية فَإِنَّا أَبْلَغُ مِنَا الْعَمَلِ.
Pourquoi dans ce hadith-là, il y a un rapport entre la science et entre l'intention? C'est parce que l'intention devance l'acte. Avant de faire un acte, on a toujours une intention. Et le musulman, avant d'accomplir un acte, il doit toujours connaître le statut de cet acte. Est-ce que cet acte est légiféré ou pas? Est-ce que cet acte, il est wajib, obligatoire, ou est-ce qu'il est mustahab, est-ce qu'il est sunna? Et ceci ne pourra se réaliser que à travers la science. C'est qu'avec la science que tu pourras savoir telle chose est wajib, telle chose est mustahab. Telle chose est mashrou', telle chose n'est pas mashrou'. C'est pour ça que certains salafs, rahimahumullah, disaient « Apprenez al-niyya, ta'allamu al-niyya, apprenez la niyya, car la niyya va plus loin et dépasse l'acte. »
Al-fa'idatu al-rabi'a min hadha al-hadith. أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له يعني قد يكون الشيء مباح في الأصل فيكون طاعة إذا نوى الإنسان خيرا كالأكل والشرب إذا نوى التقوي على عبادة الله عز وجل أو كالجماع إذا نوى العفاف والبعد عن الزنا.
La quatrième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que les actes sont jugés en fonction de ce vers quoi elles aboutissent. Je m'explique. Il se peut qu'un acte, à la base, soit mubah, soit permis. Tu n'es ni récompensé, ni puni de le faire. L'acte, à la base, il se peut qu'un acte, à la base, soit mubah, permis. Eh bien, cet acte peut devenir une adoration, une ibada, une ta'a, si la personne, elle recherche le bien à travers cet acte et en mettant une bonne intention. Comme par exemple dans le fait de manger, ou dans le fait de boire pour prendre des forces et adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Ou comme dans le fait de se marier et d'avoir des rapports sexuels avec son épouse, dans le but d'éviter zina et de s'éloigner des turpitudes.
Wa dalilu ala dhalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam li Sa'd ibn Abi Waqas. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah. إلا أجرت عليها حتى اللقمة التي تضعها في فم زوجتك.
La preuve de ce que l'on dit concernant qu'avec une bonne intention, quelque chose de permis peut devenir une adoration. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Sa'd ibn Abi Waqas, toute dépense que tu fais, si tu recherches le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es sincère dans cette dépense, alors tu seras récompensé. Même la dépense que tu fais et la nourriture que tu déposes dans la nourriture de ta famille.
وفي الجماع يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان له فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos des rapports sexuels. Il dit, l'un d'entre vous dans ses rapports sexuels aura une sadaqa, une aumône. Alors les hommes, les compagnons ont dit, ya Rasulullah, l'un d'entre nous assouvit son besoin sexuel et en plus de ça il a une récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui, parce que s'il l'avait accompli dans l'illicite, n'aurait-il pas commis un péché? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est ainsi, lorsqu'on le fait dans le halal, on a la récompense. Wa mithluhu fil akli wa shurb, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Et regardez dans la nourriture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, prenez le repas du matin pour le jeûneur, car le repas du matin est une bénédiction. Prenons deux personnes, une personne qui le matin prend son repas parce qu'il va jeûner la journée, et prenons la personne qui le matin prend son déjeuner parce qu'il doit aller travailler. L'un sera récompensé et l'autre aura seulement mangé. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est la niya. Et donc la niya fait d'une chose qui est permise, la rend, peut la rendre une chose qui devient une adoration. ومع هذا النية اسمعوا جيدا النية لا تجعل المنكر معروفا ولا تجعل البدعة سنة ولا تجعل الشرك توحيدا أبدا أبدا مستحيل. Ceci dit, il ne faut pas tout confondre. Certes, des actes qui sont permis à la base à cause de l'intention peuvent devenir des adorations, mais jamais avec une bonne intention, une bid'a deviendra une sunna. Jamais avec une bonne intention, quelque chose de blâmable deviendra quelque chose de convenable. Et jamais avec une bonne intention, du shirk va devenir du tawhid. Jamais. Les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils adoraient les statues et que le prophète et les compagnons leur faisaient des reproches, ils disaient وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ أَيْ نِيَّتُنَا حَسَنَةً. Les associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient, nous recherchons à travers l'adoration des statues de se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur intention était bonne, mais Allah subhanahu wa ta'ala appelait cet acte le shirk. Prends une personne qui rentre à la mosquée, elle veut faire le isha 5 rak'at pour se rapprocher plus d'Allah. Son intention est bonne ou elle est mauvaise? Bonne son intention. Mais cette bonne intention ne rendra jamais l'acte correct. Abadan, parce que l'acte il doit être fait selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou une personne qui boit de l'alcool et qui met dans sa intention, il dit c'est de l'eau. Est-ce que l'alcool va devenir de l'eau avec l'intention, la bonne intention? Jamais. De la même manière, jamais la bid'a ne va devenir une sunna avec la bonne intention. Jamais le shirk ne va devenir du tawhid avec une bonne intention. Et jamais le munkar ne deviendra ma'rouf avec une bonne intention. الفائدة الخامسة أنه ما من عمل إلا وله نية. La cinquième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que derrière chaque acte, il y a forcément une intention. Lorsque tu fais un acte, précédemment il y a eu une intention. Et il y a là une réponse et un soulagement à ceux qui sont harcelés par des doutes scrupuleux, qui font la même adoration plusieurs fois de suite. Et malgré cela, Shaitan leur dit, vous n'avez pas encore mis d'intention. Combien de personnes font l'odo, reviennent, et elles repartent faire l'odo? Te dis, j'ai pas mis l'intention. Combien de personnes font la prière? Elles refont la prière. Pourquoi? J'ai oublié de mettre l'intention. Eh bien, les hommes de science répondront, laissez ces suggestions. C'est des wasawis ou shaitan. Car il est impossible d'accomplir un acte sans préalablement avoir une intention. Si tu fais l'odo, c'est que avant tu avais l'intention de faire l'odo. Si tu viens à la mosquée faire le isha, c'est que tu avais l'intention de faire la prière de l'isha. الفائدة السادسة من هذا الحديث أن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لآخر لإنسان آخر حرمانا بحسب النية. أي الأعمال قد تكون صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات. ولبيان ذلك المعنى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الهجرة وسائر الأعمال على حذو هذا المثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. La sixième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que un seul acte peut être pour une personne une récompense et pour une autre personne une privation de récompense. en fonction de quoi ?
De l'intention, en fonction de la niya.
Donc on voit l'importance de l'attention. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer son propos, lorsqu'il dit « Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli mri'in ma nawa » Chaque acte, les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer son propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple de la hijra. Il a montré que la hijra, qui est un seul acte, peut être pour une personne une récompense. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Celui qui émigre pour Allah et son prophète, sa récompense, son émigration sera comptée pour Allah et son prophète. Et pour une autre personne, le même acte, la hijra, pourra être une privation de récompense. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha, ou imra'atin ankihuha, celui qui émigre pour se marier ou pour un intérêt de cette vie, fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Il aura comme récompense la chose pour laquelle il a émigré. Et ceci en fonction de quoi ?
De l'intention.
C'est le même acte. Un a la récompense, l'autre est privé de récompense à cause de quoi ?
De l'intention.
Donc celui qui a émigré pour Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, il sera récompensé. Tandis que celui qui a émigré pour acquérir les biens de cette vie ou pour épouser une femme, il sera privé de la récompense de la hijra. Et cet exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné pour la hijra, il s'applique à tous les actes d'adoration. Tout ce que tu fais, l'un pourra être récompensé, l'autre pourra être privé en fonction de
an-niyya.
Al-fa'idatu as-sabi'ah yanbaghi lil-'alim wal-mu'allim wal-ab wal-um wal-murabbi an yadhrib al-amthal lit-tawdih wal-bayan. فقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال الهجرة ليقر أو ليقرر ويوضح القاعدة السابقة ما هي القاعدة؟ أن فساد الأعمال وصلاحها وثوابها وحرمانها بصلاح النيات أو فساد النيات. Septième leçon à retenir concernant ce hadith, le hadith de Omar ibn Khattab, c'est qu'il est bon pour le savant ou pour l'enseignant, ou pour le père, ou pour la mère, ou pour le frère, ou pour celui qui oriente les gens, de donner des exemples pour éclaircir, pour expliquer, pour faciliter. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ici, il a donné l'exemple de la hijra, pour expliquer la règle. Quelle est cette règle ? Que la personne sera récompensée ou pas, ou que la personne, son acte sera valide ou pas, en fonction de son intention. Et il est bon aux musulmans. Et dans beaucoup, beaucoup de cas, beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des exemples. Et il est bon aux croyants d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'expliquer à travers des exemples pour que les gens comprennent. Al-fa'idatu thamina, anna al-amala li ghayrillahi aqsam. La huitième leçon à retenir concernant le hadith de Omar ibn Khattab, c'est l'acte, lorsqu'il est fait pour autre qu'Allah, il est de différentes catégories. Fataratan yakunu riya'an mahdha la yuradu bihi siwa mura'ati an-nas wa mura'ati al-makhluqin li gharadin dunyawi ka hal al-munafiqin fi salatihim. Qala ta'ala anhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala يراؤون الناس وكحال الكفار. قال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس. Donc l'acte qui est fait pour autre qu'Allah, il existe différentes catégories. Première catégorie, c'est lorsque l'acte il est fait totalement pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ça du riya, l'ostentation. La personne fait un acte pour un intérêt ou pour se montrer devant les gens. Et ceci est le cas des hypocrites, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Et lorsqu'ils se lèvent pour faire la prière, ils se lèvent avec fainéantise, yura'un an-nas, et ils veulent se montrer devant les gens. Et c'est aussi le cas des kuffars, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'ils sont sortis pendant la bataille de Badr, sont sortis pour montrer leur puissance aux tribus arabes, ils ont dit, Allah azza wa jalla dit de eux, et ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur demeure par fierté et pour se montrer aux gens.
وهذا الرياء التام في جميع الأعمال لا يتصور من مسلم، وإنما يقع الرياء ربما في بعض أعمال وفي بعض عبادات المسلم في أولها وفي أثنائها، أما في عباداته كلها فلا يتصور. Cette ostentation de manière générale, c'est-à-dire que la personne dans toute son adoration, dans toutes ses paroles, dans tous ses actes, elle le fait par ostentation. Il est impossible, inconcevable que ce soit le cas du croyant. Parce que le croyant peut être touché par l'ostentation, mais dans certaines de ses adorations. Au début de son adoration ou au milieu de son adoration. Mais dans toute son adoration, dans toute sa vie, il le fait pour autre qu'Allah, ça ne peut pas être le cas d'un croyant. ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة والعياذ بالله. Et sans aucun doute, celui qui atteint cet état, c'est-à-dire que lorsqu'il veut faire l'acte, il le fait que pour se montrer. Sans aucun doute, son acte est annulé. Et sans aucun doute, il mérite la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et la punition d'Allah azza wa jalla. وطارة يكون العمل لله ويشاركه رياء فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Et parfois l'acte peut être fait pour Allah, mais il est aussi accompagné de riya, d'ostentation. Si cette ostentation est présente dès le départ de ton action, il n'y a aucun doute, selon la preuve des versets et des hadiths, que l'acte il est nul et il est rejeté. Comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un hadith qudsi, Allah dit: je suis au-dessus de toute personne qui commet du shirk. Et celui qui fait un acte et qui m'associe avec quelqu'un d'autre dans cet acte, je délaisserai cet acte et je délaisserai son shirk. Je délaisserai cette personne et je délaisserai son shirk. وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْعَمَلِ لِلَّهِ ثُمَّ طَرَأَتْ عَلَيْهِ نِيَّةُ الرِّيَاءِ وَدَفَعَهُ وَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ هَذَا رِيَاءٌ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ بِاتِفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ. Par contre, si la personne fait un acte et elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite le riya, Shaitan vient pour corrompre ton acte avec de l'ostentation. Tu fais la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu donnes sadaqa sincèrement pour Allah, et la riya vient. Shaitan, il te ramène et il veut corrompre ton acte à travers la riya, l'ostentation. Si tu rejettes, tu dis a'udhu billah, si je le fais pour les gens, mon acte sera rejeté. Il n'y a aucune divergence entre les savants que cette ostentation n'a aucunement affecté ton acte. Et que l'acte il reste toujours sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. وقد اختلف العلماء السلف في استرسال الرياء الطاري هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجاز على أصل نيته. Par contre, les hommes de science ont divergé sur la personne qui commet un acte et le riya l'accompagne, l'ostentation accompagne cet acte du début jusqu'à la fin. Ou plutôt, du moment où il a l'ostentation jusqu'à la fin. Est-ce que son acte est accepté ou pas ? Par exemple, la personne fait la prière, et au moment du ruku', il fait un ruku' plus long. Certains savants ont dit, il n'y a que la partie du ruku' qui a été faite par ostentation, qui est rejetée et annulée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le reste de la prière est valable. Par contre, d'autres savants ont dit, à cause de ça, tout l'acte est rejeté. وَأَمَّا إِذَا عَمِلَ الْعَمَلَ لِلَّهِ خَالِصًا ثُمَّ أَلْقَى اللَّهُ لَهُ الثَّنَاءَ ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين واستبشر بهذا وفرح بهذا فإن ذلك لا يضره يعني باتفاق. Par contre, si la personne elle a fini son action sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle a donné une aumône, elle a fait la prière, elle a lu le Coran, elle a fait le Hajj, elle a fait les actes, s'il est fait sincèrement pour Allah, et si après l'acte la personne se réjouit de son action. Et lorsqu'on lui dit, Masha'Allah, t'as un bon comportement, il est réjoui de ça. Ou on lui dit, Masha'Allah, tu fais bien ta prière. Ou Masha'Allah, tu lis bien le Coran. Ou Masha'Allah, on lui fait des éloges sur son acte. Mais lui, à la base, son acte, il était pour Allah. Et il a terminé son acte pour Allah. Et il est content de ça.
Il y a quelque chose en lui, il est content de ça. Il n'y a aucune divergence chez les hommes de science que ça, c'est pas du ria.
وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير يحمده الناس عليه. الرجل يعمل عملا خيرا يحمده الناس عليه فيفرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلكم المؤمن. والحديث صحيح.
Et regardez ce qu'on disait précédemment, ça a été rapporté dans le hadith de Abi Dharr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé à propos d'un homme. Cet homme, on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un homme qui fait un acte pour Allah. Mais ensuite, cet homme, il est content parce que les gens lui font des éloges. Ou les gens lui font des éloges sur cet acte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Tilka ajilu bushra al-mu'min. Telle est la première bonne nouvelle, la bonne annonce pour le croyant. Et dans un autre hadith, le prophète a dit, celui qui se réjouit du bien qu'il a fait et qui regrette le mal qu'il a commis, celui-là est un croyant. Donc, le riya n'a rien à voir avec ça.
الفائدة التاسعة قرن الرسول صلى الله عليه وسلم بالواوي حيث قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله ولم يقل رسول الله من كانت هجرته إلى الله ثم رسوله مع أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ما شاء الله وحده فما الفرق بينهما.
Neuvième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui émigre pour Allah est son prophète ». Et dans d'autres hadiths, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « ce qu'il plaît à Allah est ce qu'il plaît au prophète ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Non, ce qu'il plaît à Allah uniquement ». Quelle est la différence? Pourquoi ici c'est accepté et là ce n'est pas accepté?
يقول أهل العلم أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو لأن ما صدر عن رسول الله هو ما صدر من الله سبحانه وتعالى وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع اسم الله سبحانه وتعالى يعني الواو لا يجوز أن نقول الله ورسوله.
Quelle est la différence entre les deux cas? C'est que tout ce qui touche à la sharia, on peut dire Allah est son prophète. Pourquoi? Parce que ce qui nous vient du prophète, nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, tout ce qui touche à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de l'associer avec le prophète. On ne peut pas dire Allah est son prophète. Je vais vous donner un exemple, parce qu'avec les exemples qu'on a dit, les choses s'éclaircissent. Si une personne te demande, est-ce que demain il va pleuvoir? Est-ce qu'on peut dire, Allahu wa rasuluhu a'lam? Allah et son prophète le savent. On peut pas. Pourquoi? Parce que c'est une erreur de dire ça. Parce que seul connaît ce qui va se passer demain, Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si quelqu'un te demande, est-ce que ça c'est halal? Et est-ce que ça c'est haram? Est-ce qu'on peut dire, Allahu wa rasuluhu a'lam? On peut le dire. On peut dire, Allah et son prophète le savent. Parce que ce qui nous vient d'Allah, nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en vous faisant remarquer que certains hommes de science ont dit qu'il est déconseillé de dire Allahu wa rasuluhu a'lam. Certains hommes de science disent c'est mieux de dire Allahu a'lam pour ne pas mettre d'ambiguïté chez les gens.
Al-fa'idatu al-ashira anna an-niyyata mahalluha al-qalb wa la yajuzu at-talaffuzu biha li'anna at-talaffuzu bin-niyyah bid'ah.
Dixième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que l'intention siège dans le cœur et prononcer l'intention est une bid'a. Le musulman doit avoir l'intention quand il va faire le isha, mais cette intention se trouve dans le cœur. Il ne doit pas dire je vais faire le isha 4 rak'at. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah rapporte qu'un homme était devant la Kaaba. Il s'est levé pour faire la prière en disant je vais faire la prière de dhuhr 4 rak'at. Et le cheikh lui a dit tu devrais dire aussi je vais faire la prière de 4 rak'at derrière l'imam un tel, à côté de la Kaaba, tel jour, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non, le musulman, sa niya doit être dans le cœur.
الفائدة الحادية عشر أو الحادية عشرة قد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب هذا الحديث، يعني قوله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هذا يعني القول قول النبي صلى الله عليه وسلم سببه مهاجر أم قيس. فقصة مهاجر أم قيس صحيحة، ولكن ليس يعني هذا الحديث سببا لهذه القصة، وهذا ما قاله يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني والشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله وحفظه الله. 11e leçon à retenir concernant ce hadith, c'est qu'il est connu. Certains disent que la cause de ce hadith, lorsque le prophète a dit celui qui émigre pour épouser une femme ou pour un bien de ce monde, son émigration sera comptée comme telle. Certains disent que la cause de cette parole du prophète, c'est qu'un homme qui s'appelait Muhajir Umm Qais, celui qui a fait la hijra pour une femme qui s'appelait Qais, le prophète a dit pour cet homme. Parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Muhajir Umm Qais, un homme qui était à la Mecque, a émigré vers Médine pour se marier avec une femme qui s'appelait Umm Qais. Et certains disent que la parole du prophète est en rapport avec ça. Certes, l'histoire existe, mais il n'y a pas de cause à effet entre l'histoire de cet homme et le hadith. والفائدة الأخيرة وجوب الأخذ بالأحاديث الأحاد في العقائد إذا كانت صحيحة، وفي هذا رد على من لا يأخذ الحديث الأحاد إذا كان صحيح ولا يحتج به في باب العقيدة، هذا خطأ. فحديث عمر بن الخطاب حديث أحاد، ومع ذلك قبلته الأمة بالقبول التام، بل هو من أحاديث الغريبة. La dernière leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que il y a obligation d'accepter les hadiths qu'on appelle ahad du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il touche à la aqida à partir du moment où il est sahih. Et il y a là une réfutation, une réplique à certaines personnes qui rejettent les hadiths ahad et qui disent que on peut pas utiliser les hadiths ahad dans la aqida. Et ceci est une erreur, parce que les hadiths, al-ahadith, بإعتبار وصولنا إلى تنقسم إلى قسمين حديث أحد وحديث متواتر. Les hadiths, en fonction de comment ils sont arrivés, sont soit des hadiths ahad ou soit des hadiths mutawatir. Un hadith mutawatir, c'est un hadith qui, dans chaque niveau du hadith, il y a tellement de personnes qui ont rapporté ce hadith qu'il est impossible qu'ils se sont mis d'accord pour fabriquer ce hadith. C'est ça un hadith mutawatir. Et le hadith mutawatir, il est forcément sahih. De l'autre côté, il y a le hadith ahad. C'est le hadith qui ne vérifie pas les conditions du hadith mutawatir. Et dans le hadith ahad, on a le hadith qui est mashhur, qui est aziz, et le plus bas niveau du hadith ahad, c'est hadith gharib. Et le hadith de Omar ibn al-Khattab, c'est un hadith gharib. Parce que il y a que Omar radiallahu anhu qui l'a entendu du prophète. Il n'y a aucun autre compagnon qui l'a entendu. Et de Omar, il n'y a que Ilqima ibn Qais al-Laythi qui l'a entendu de Omar. Et de Ilqima ibn Qais al-Laythi, il n'y a que Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi qui l'a entendu. Et de Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, il n'y a que Yahya ibn Sa'id qui l'a entendu. Donc c'est un hadith qu'on appelle Ahad et qui est gharib. Dans le sens où dans les premières chaînes du hadith, il n'y a qu'un rapporteur qui le rapporte du suivant. Vous m'avez compris ? Eh bien dans cela, il y a une réplique. C'est-à-dire que le musulman, il accepte les hadiths qui soient ahad ou qui soient mutawatir à partir du moment où le hadith ahad, il est sahih. Que ça soit dans l'ahkam, dans notre adoration, ou que ça soit dans l'aqida. Akhtimu, yani biqira'ati l'hadith. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث رواه البخاري ومسلم. Selon Omar ibn Khattab, le prince des croyants,
Il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Celui qui émigre pour Allah et son prophète, son émigration sera comptée pour Allah et son prophète. Et celui qui émigre pour épouser une femme ou pour un intérêt de cette vie, son émigration sera comptée comme telle. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.